Alors bonjour à tous.
Bonjour.
J'espère que vous allez tous bien.
Oui.
Moi aussi, je vais bien. Et même tout à l'heure, je pense que je vais enlever la veste parce que ça commence à être le printemps chez nous. Il fait chaud. Hey. Alors, il y a beaucoup de nouvelles. Déjà, premièrement, les dons qui commencent à arriver timidement pour ma tournée en Afrique. Ma tournée en Afrique commencera le 20 février, durera 15 jours. Et voilà, j'attends vos dons pour pouvoir partir là-bas. Je ne veux pas partir là-bas les mains vides parce que je pense qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas simplement aller pour apporter la parole, mais aussi pour aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, vous avez dans Révélation Bible un petit truc jaune, dedans c'est écrit PayPal. Vous cliquez dedans et vous faites un don. Alors j'avais dit 10 euros. Mais c'est que les gens m'ont pris au moins m'envoyer 10 euros. C'est gentil. Merci. Mais vous pouvez quand même faire mieux. Quand vous étiez pas chrétien et que vous achetiez votre paquet de cigarettes, je vous fais les gros yeux là. Bon, écoutez, faites un don pour l'œuvre de Dieu. Si vous croyez dans mon ministère, si vous ne croyez pas dans mon ministère, laissez tomber, allez donner ailleurs. Mais si vous croyez dans mon ministère, faites des dons. Que Dieu vous bénisse. Une deuxième chose, une nouvelle, et ça, c'est pas encore sur la page Révélation Bible, ça va l'être peut-être dans la semaine. Nous allons avoir un Facebook Révélation Bible, c'est-à-dire que nous allons pouvoir correspondre avec vous beaucoup plus facilement et échanger. Alors, on prend un risque, parce que je sais aussi que quand on ouvre comme ça les portes, alors on a toutes sortes de gens, pas toujours très polis, qui viennent nous insulter. On verra ce qu'on fera. De toute façon, on a un modérateur. Pour commencer, on en a un, on aura peut-être deux ou trois. On aura peut-être besoin de plus pour faire de l'ordre. Et puis, il y a une troisième bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant une chaîne YouTube. Alors, vous aurez l'adresse aussi. Tout ça, ça va être sur la première page de Révélation Bible. Et comme ça, vous pourrez suivre en direct les vidéos. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et beaucoup plus facile aussi pour vous, pour partager avec vos amis qui ne nous connaissent pas encore. Voilà, ça c'est pour les nouvelles. Autrement, tout va bien, madame la marquise. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça fait rigoler Rachel. Ce matin, on va étudier la parole de Dieu. Je vous promets, je ne vais pas être long. On va commencer dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. C'est un texte que j'ai prêché il y a longtemps, mais ce n'est pas la même prédication. Mais j'avais prêché, je m'étais servi de ce texte-là. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la parole que je vous apporte ce matin. Dans d'autres versions, c'est marqué, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez viril. Mais viril, ça ne veut pas dire poilu, ça veut dire, courageux. C'est un mot latin qui signifie courageux, soyez des hommes. Et même les femmes, soyez des hommes, vous les femmes. Dans le Saint-Esprit, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes des humains, on peut dire, voilà. Alors, soyez des humains. Un homme véritable, une femme véritable, il se rend aux persuasions du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est qu'un homme selon Dieu. Un homme véritable, une femme véritable, je ne veux pas dire à chaque fois un homme véritable, une femme véritable, on va dire un homme véritable, Et tant pis pour ceux qui sont pour le fait que... Vous savez, maintenant, tous ces trucs de la grammaire et tout ça, ils sont malades, ils ne savent pas de quoi s'occuper. Alors, un homme véritable, il cherche à acquérir les vertus chrétiennes, les forces chrétiennes, les vertus chrétiennes. Alors, les adolescents, moi, j'ai commencé ma vie chrétienne en tant qu'adolescent, et voilà, je sais ce que c'est que le problème des adolescents. Quand on est adolescent, on a des problèmes parce qu'on veut plaire à nos amis. On a beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens. Et nos copains aussi, et ils sont souvent, les adolescents, tiraillés entre la parole de Dieu et les moqueries de leurs amis non convertis. Et c'est pas facile de rester pur. La plupart du temps, les insultes des inconvertis sont pénibles à supporter. Et ces pauvres ados, moi je m'en souviens... se garder pur, c'est pas facile. Parce que la plupart du temps, ce dont on nous accuse, quand on dit non, je veux pas me saouler, non, je veux pas fumer un joint, non, je veux... On dit, ah, mais t'es pas un homme. Ah bon? Ah bon, comme disent les Africains. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Tout le monde, un jour ou l'autre, est invité par des amis à fumer, à boire, à voler, à commettre des choses immorales. Quand on refuse, bon, ça attire toutes sortes de railleries. C'est pas méchant, mais c'est blessant, c'est vexant. Puis on voudrait pas être mis de côté, on voudrait pas être... on nous traite de, voilà, de femmelette, de fils à maman, d'idiot, de poule mouillée, de chochotte, de froussard, de fanatique religieux, toutes sortes de noms d'oiseaux encore. Et c'est pas facile, ces insultes sont utilisées par des gens qui croient que être un homme, c'est faire toutes ces choses-là. C'est faire toutes ces choses que Dieu réprouve en fait. Tout le monde sait, par exemple, que la fumée, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il faut vos copains qui vous raillent, vous leur dites, écoutez, cet après-midi, c'est génial, on va prendre une voiture. Vous avez toujours un copain qui a une voiture, si vous n'en avez pas une. Et je vais vous emmener dans un endroit génial. Puis vous les emmenez en cancérologie, là où il y a des fumeurs qui ont... Et tu veux toujours fumer? Ça fait drôle, n'est-ce pas? Maintenant, les pubs, eh ben, elles nous vantent des mérites, n'est-ce pas, des cigarettes et d'autres choses, et d'autres vices, n'est-ce pas. Et ces pubs, elles sont faites par des gens qui ne se soucient pas du tout de votre âme, c'est-à-dire de votre être. Ils s'en foutent complètement, complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est votre pognon, ils veulent votre argent. Ils cherchent à faire croire aux ados... qui sont plus tendres, n'est-ce pas, que les adultes, mais les adultes tombent dans le panneau. Très souvent, ils tombent dans le panneau ado, puis après, ils sont accros, et ils ne peuvent plus s'en sortir. Mais ils veulent faire croire aux gens que être un homme, c'est faire ces choses que Dieu réprouve. C'est pas que Dieu... Si ce n'était pas nocif de fumer, mais moi, je fumerais. C'est nocif. Or, un homme ou une femme qui fait ces choses... n'est qu'un esclave de produits ou de pratiques qui sont destructrices. C'est ça qu'il faut comprendre. Les garçons qui veulent avoir des relations sexuelles avec leur petite copine avant le mariage, ben c'est pas des hommes, je suis désolé, c'est pas des hommes. Ces garçons-là ne sont pas des hommes. Ils ne font qu'abuser d'une personne tendre, délicate, chaste, et ils font tout pour séduire, puis après c'est, je l'ai bien eu. C'est comme ça, hein. Ne venez pas me dire que c'est pas comme ça. Je sais que c'est comme ça. C'est comme ça depuis la nuit des temps, et chacun pense, ah mais moi j'ai rencontré le grand amour. Mensonge. Si un homme est vraiment un homme, il te respecte. Mes frères et sœurs, nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ et nous détenons la prêtrise. Il faut que nous soyons sur nos gardes. Nous n'avons pas à nous laisser diriger par les voies des barbares. Je les appelle des barbares. C'est des gens durs, c'est des gens implacables. Nous devons nous souvenir que Dieu nous a créés à son image. Et nous avons à garder cette image. Parce qu'on peut salir cette image, on peut rayer cette image, on peut dénaturer cette image. Je vais faire une lecture dans Alma, au chapitre 5, verset 14. Alma 5, 14. Je lis. Et maintenant, voici, je vous demande, mes frères de l'Église, êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Faites-vous preuve de foi en la rédemption de celui qui vous a créé? Regardez-vous vers l'avenir avec l'œil de la foi et voyez-vous ce corps mortel ressuscité à l'immortalité et ce corps corruptible ressuscité à l'incorruptibilité pour vous tenir devant Dieu, pour être jugé selon les actes qui ont été accomplis dans votre corps mortel? Est-ce que vous voyez tout ça?
la foi. Je vous le dis, pouvez-vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous dire en ce jour-là, « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici vos œuvres ont été les œuvres de la justice sur la surface de la terre. » Ou vous imaginez-vous que vous pourrez mentir au Seigneur en ce jour-là et dire, « Seigneur, nos œuvres ont été des œuvres justes sur la surface de la terre, et qu'il vous sauvera ?» Ou autrement, pouvez-vous vous imaginer amener devant le tribunal de Dieu l'âme remplie de culpabilité et de remords avec le souvenir de toute votre culpabilité? Oui, le souvenir parfait de toute votre méchanceté? Oui, le souvenir que vous avez défié les commandements de Dieu? Je vous le dis, pourrez-vous lever les yeux vers Dieu ce jour-là, le cœur pur et les mains nettes? Je vous le dis, pourrez-vous lever les yeux ayant l'image de Dieu gravée sur le visage? Je vous le dis, pouvez-vous penser être sauvé alors que vous vous êtes livré pour devenir sujet du diable? Je vous le dis, vous saurez ce jour-là que vous ne pouvez être sauvé car aucun homme ne peut être sauvé si ses vêtements ne sont pas blanchis. Oui, blanchis. Ses vêtements doivent être purifiés jusqu'à ce qu'ils soient nettoyés de toute tache par le sang de celui dont il a été parlé par nos pères, qui doit venir racheter son peuple de ses péchés. Est-ce que le livre de Mormon enseigne le salut par les œuvres? Non. Il enseigne avec plus de précision ce que l'apôtre Paul enseigne aux Romains, pour que ça soit bien clair. Le livre de Mormon n'est pas une autre Bible, c'est simplement un autre témoignage de Jésus-Christ. Et il témoigne de ce que Jésus-Christ a déjà dit, ou de ce que les apôtres et les prophètes ont déjà dit, mais écoutez ce que Paul dit, Romains 8, 11. Romains 8, 11. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ah! Est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler du salut par les œuvres? Non, mais il nous dit, voilà, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et il dit ça à qui? À des chrétiens. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons quoi? Le fait de ne pas nous soumettre à la chair. Parce que quand on ne se soumet pas à la chair, on souffre. On est raillé par nos amis, on est mis de côté. C'est une souffrance. Nous sommes enfants de Dieu, nous aussi nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et nous souffrons, notre chair souffre, quand nous refusons de lui être soumis. Mais nous pouvons souffrir avec lui. Verset 17. Vous n'êtes pas tout seul à souffrir quand on vous raille, quand on se moque de vous. Mais vous n'êtes pas tout seul, Jésus est avec vous et il a connu ça, il sait ce que c'est, il a vécu ça lui aussi. Et pas seulement lui, mais aussi tous les saints qui vous ont précédé et qui vivent encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas tout seul dans cette souffrance quand vous voulez marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Vous hériterez avec lui si vous souffrez avec lui, c'est-à-dire si vous êtes de son côté. Et si vous refusez de marcher selon la chair, mais que vous voulez marcher selon lui, selon l'esprit, un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Non! Mais relisons Romains 8, on va revenir à Romains 8, Et puis là, on avait pris le verset 11, mais regardons le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut être religieux, on peut être dans l'église, on peut être dans tout ce que vous voulez de religieux. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous ne lui appartenez pas. S'il habite en vous, vous êtes son enfant pour l'éternité. Seulement, faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce que c'est moi qui l'invente ou est-ce que c'est la Bible qui le dit? Est-ce que nous avons le droit d'attrister le Saint-Esprit qui vit en nous? On peut l'attrister, les catholiques ont inventé ce mot par omission. Sans faire exprès. Mais faire volontairement, ou pour plaire à ses amis. Si vous l'attristez par vos mauvaises œuvres, vous serez attristé vous-même jusqu'à votre repentance. Et quand vous arriverez devant Dieu, vous serez sauvé, mais comme au travers du feu, vous sentirez un peu le roussi, puis vous n'aurez pas de récompense, et puis votre statut ne sera pas très glorieux. Vous savez que, comme je voulais prêcher, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et l'apôtre Paul précise, il y a 3 degrés, il y en a qui brilleront comme le soleil, il y en a qui brilleront comme la lune, puis il y en a qui brilleront comme les étoiles. Et puis toutes les étoiles ne brillent pas la même chose, il y en a qui sont vraiment des cailloux qui traînent, quoi. Vous voyez, mes frères et sœurs? Alors, bien sûr, on peut prendre ces textes en disant... On est sauvé par les œuvres. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi, mais quand on a la foi, eh bien, on fait ce que Jésus dit de faire. On est de son côté, on souffre avec lui. Je ne suis pas là ce matin pour vous enseigner au sujet de la relation entre le salut par la grâce et les œuvres. Mais je veux souligner ce que la Bible dit au sujet de ce que devrait être un chrétien. C'est ça mon propos. Dans le psaume 8, 5, 6, il nous est dit « Qu'est-ce que l'homme ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Alors, qu'est-ce que nous avons à faire ? Avec les frères et sœurs de la communauté, je dis ça pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou ceux qui écoutent sur Révélation Bible, nous avons suivi et nous sommes encore en train de suivre un feuilleton qui s'appelle « Crown ». Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est couronne. C'est l'histoire de la reine d'Angleterre et de tout ce qui se passe là-bas, du Kingham Palace et tout ça. Cette femme, elle est en quelque sorte le pape de la religion anglicane. Voilà, elle a un problème, elle a sa sœur qui veut épouser un homme divorcé. Problème. L'Église anglicane interdit le mariage avec une personne divorcée. Si sa sœur épouse cet homme, eh bien sa sœur est bannie du royaume. Non seulement elle ne pourra plus habiter dans le palais, mais elle sera même bannie d'Angleterre. Elle pourra aller habiter dans un autre pays. Elle ne touchera plus d'argent de la part de l'Angleterre, donc elle devra aller travailler comme caissière à Super U. C'est très bien, remarquez, je n'ai rien à contre, mais de passer de reine de princesse à caissière, ça fait quand même drôle. Elle perd tous ses privilèges. Et puis, ce n'est pas seulement ça, mais ça ouvre une brèche, c'est-à-dire que tous les Anglais qui ne sont pas contents et puis qui veulent se marier avec un homme divorcé ou avec une femme divorcée, ben, vont faire la même chose. Et, la reine d'Angleterre perd son autorité parce qu'on dit, voilà, elle exige ça pour nous, mais elle ne le fait pas pour... elle est différente avec sa sœur. Il y a du favoritisme. Vous voyez tout ça. Quand la parole de Dieu dit une chose, elle le dit point barre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une femme qui épouse un homme divorcé ou vice-versa ne pourra pas être sauvée. Mais ça veut dire qu'il aura, quand il arrivera devant Dieu, selon ce qu'il aura fait. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire? Je ne suis pas en train de vous dire vous serez perdu si vous avez épousé un homme ou une femme divorcée. Je suis en train de vous dire vous serez sauvé, oui, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui tiendra dans le jugement quant aux récompenses. Et déjà, ici-bas, voilà, Vous perdez des privilèges dans l'Église. C'est quand même, c'est terrible. Cette femme, elle a tenu bon. Alors, je ne sais pas que je sois pour la reine d'Angleterre. Je sais qu'il y a des chrétiens qui disent que c'est la grand-mère de l'Antichrist. Bon, moi, je n'y crois pas, hein, mais enfin, bon. Alors, voilà, c'était pour vous donner un exemple. Voilà, elle s'est mise à dos sa frangine. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est jamais facile avec Jésus. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire, étant donné que nous avons été couronnés de gloire et de splendeur, d'après le psaume 8, 5, 6. Eh bien, nous avons à nous élever pour porter dignement la couronne que Dieu nous a donnée. Et nous avons à porter honorablement cette couronne. Dieu nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, alors nous devons comprendre que nous sommes la postérité spirituelle de Dieu, et nous avons aussi à comprendre que nul ne devient véritablement un homme avant de faire preuve de respect à l'égard du Père des Esprits. Et personne ne devient véritablement un homme ou une femme avant de maîtriser ses forces intérieures, de contrôler ses pensées, ses paroles, ses actes. Tant qu'on n'est pas capable... Je lisais hier des scientifiques, toujours des nouvelles, de l'université de machin, patin, couffin, découvert, en faisant des recherches. L'adolescence, paraît-il, chez un homme, ça s'arrête à 24 ans. Je crois qu'il y en a même... Il y en a même qui sont plus longs, hein. Bon, Hébreux chapitre 12, verset 9. Hébreux, tiens, je n'ai pas noté. Hébreux 12, 9. Normalement, je mets des petits tickets, puis là, pour Hébreux 12, 9, ça a sauté. Alors, où sont les Hébreux, chérie? Tellement de bouts de papier dans cette Bible. Hébreux 12, 9. D'ailleurs, puisque nos pères nous ont, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits, virgule, pour avoir la vie? Oh, est-ce que c'est le salut par les œuvres? Je vous laisse deviner. Oui, mes frères et sœurs, nous avons à nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie. Paul disait, si du moins vous avez l'Esprit, si du moins vous avez la vie de Dieu. En tant que disciples de Jésus, nous avons à nous élever au-dessus des comportements mauvais qui nuisent et qui ruinent notre âme, c'est-à-dire notre être, notre vie. Sur cette terre, nous avons été perdus. Et nous avons été retrouvés par le bon berger. La Bible dit que nous étions pris dans des ronces. Nous étions comme une brebis pris dans des ronces. Il a laissé 99 brebis bien confortablement assises dans l'église. Et puis il est allé chercher la brebis perdue que j'étais. Et il m'a trouvé dans les ronces. Il m'a dégagé de là. Il m'a pris sur ses épaules et il m'a emmené, il m'a sauvé. Il nous a retrouvés. Maintenant, ayant été sauvés, nous avons à nous éveiller du sommeil de l'enfer où nous étions, dans les ronces où nous étions, nous avons à nous réveiller de cet enfer et à apprendre les desseins sacrés de notre Dieu. Je lisais l'autre jour, quelqu'un disait, mais qui vous dit que la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète? On se demande, hein? Mais c'est horrible ce qui se passe sur cette planète. Nous avons à apprendre à nous éveiller du sommeil de l'enfer où nous étions coincés et où Jésus est venu nous chercher. Nous avons à nous éveiller et à apprendre les desseins sacrés de notre Dieu, parce que aucun sommeil n'est plus profond et aucun sommeil n'est plus redoutable que le sommeil de la méconnaissance. Nous devons connaître. L'ignorance est un fléau. L'autre jour, je regardais encore sur Internet quelqu'un qui disait « Les dinosaures n'ont jamais existé. La Terre est plate. » Bip, 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 bip. La terre assimilant. Ils veulent ignorer qu'entre chapitre, dans le chapitre 1 de Genèse, de la Genèse, le verset 1 et le verset 2, il y a des milliards d'années qui se sont produites. Et le terme créé n'est employé qu'au verset 1, après c'est restauré. Dieu a restauré la terre, parce que Dieu n'a pas pu créer une terre chaos, comment c'est écrit, vide et informe. Dieu n'a pas créé un truc pareil. Il s'est passé, il y a eu des catastrophes qui ont fait que la terre était devenue tohu-bohu, c'est le mot. Et donc, avant Adam, avant Ève, il y a eu les dinosaures, les machins, les trucs et tout ça. Mais c'est l'ignorance. Et puis vous avez ces gens qui parlent avec autorité sur Internet. Oui, la terre à 6 000 ans, ils passent pour des idiots. Non, la terre n'a pas 6 000 ans. Il y a 6 000 ans, elle était restaurée. Oui, mais elle n'a pas 6 000 ans, elle est beaucoup plus vieille que ça. L'ignorance. Quand on commence déjà avec l'ignorance en lisant le premier verset de la Bible, mais où est-ce qu'on va gicler avec le reste? Nous avons à secouer les chaînes qui nous tenaient, c'est-à-dire nous débarrasser des mauvaises habitudes et des mauvaises croyances. Il nous faut être déterminés à être un seul cœur, à être une seule âme, à être un seul être, uni en toutes choses avec ceux qui sont les autres disciples. Et voilà les amis, voilà les frères et sœurs, voilà notre vraie famille. Ce qui exige un engagement véritablement total à mener jusqu'au bout. À avoir une unité de but. C'est quoi l'unité? Si ce n'est pas une unité de but, ce n'est pas une uniformité, c'est une unité de but, afin que notre volonté personnelle soit rendue compatible avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui doit se faire à nous, c'est nous qui devons nous faire à lui. C'est lui le maître, ce n'est pas nous. Mais moi je pense qu'on s'en fout de ce que tu penses. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit. Se revêtir de l'amour de Dieu appelle la nécessité de porter le casque du salut, nous dit la Bible. Pourquoi? Parce que, on peut prendre des coups. Et vous allez en prendre dans la vie. Se revêtir de l'armure de Dieu, ça nous rappelle la nécessité de brandir l'épée de la justice. Trancher dans les trucs. Ça, non, je ne veux pas. Ça, oui. Non, ça, non. D'utiliser le bouclier de la foi, parce que l'ennemi va nous tirer des traits enflammés. Et ça pique dans le dos, comme disait Chirac. Ça signifie que nous avons à accepter la protection du Seigneur, mais la protection du Seigneur, c'est pas de la magie. Il nous protège quand nous sommes dans sa main, mais nous ne sommes pas dans sa main quand on fait ce qu'on veut. Sortir de l'obscurité nous invite à être un exemple de bienveillance, à être une lumière pour les autres, qui vous disent, oui, tu fumes pas, t'es pas un homme, tu te saoules pas la tronche, t'es pas un homme, c'est. Soyez une lumière. Au début, ils vont vous cracher dessus, ils vont vous mépriser, et quand un jour, ça tournera mal, ils sauront vers qui se tourner, parce qu'ils sauront où est la lumière. Ne pas se révolter indique clairement qu'il est absolument vain d'ignorer ou d'enfreindre volontairement les commandements de Dieu. C'est vain, ça ne sert à rien. À rien d'autre que de vous rendre malheureux, vous. Vous voyez? Ce qui a de la valeur, c'est d'être un humain selon Dieu. L'homme, c'est qu'une sale bête malfaisante. Je ne dis pas que c'est qu'une sale bête, parce qu'il y a des bêtes qui sont très bien. Mon chien, il est très bien. Il est tout seul à la maison, j'espère qu'il n'est pas en train de nous mettre tous en dessous. C'est qu'un chien là. Mais je dis que l'homme sans Dieu est une bête malfaisante. Ah, elle peut être très beau, elle peut être très belle. Mais si quelqu'un vit au jour le jour, mangeant, buvant, respirant, dormant et j'en passe, ce n'est que lorsque nous nous élevons et que nous nous préoccupons de l'esprit immortel que Dieu a placé en nous, que nous sommes véritablement, que nous devenons, que nous commençons à devenir des hommes. Vous voyez, mes frères et sœurs, ou des femmes, dignes de ce nom. Si nous ne le faisons pas, nous nous moquons du sang que Jésus a versé sur la croix pour nous racheter. Et vous pensez qu'on ne sera pas traité de coupable pour ça? Vous pensez que c'est... Bon, c'est pas grave. Dieu est bon. La soumission à la chair n'a jamais été la virilité et ne le sera jamais. L'humain vertueux se rend aux persuasions du Saint-Esprit. Il écoute ce que Dieu a à dire. Sur la nouvelle page Facebook, la première chose qui sera écrite, c'est « La parole de Dieu n'est pas un livre. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est lui que vous devez écouter. Bien sûr, le livre est important, parce que c'est un témoignage des hommes et des femmes qui l'ont connu et qui ont écrit, qui ont été inspirés pour écrire, afin que nous nous souvenions, que nous sachions 2000 ans, 5000 ans après, les choses qui ont été faites et qui ont été dites. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est une personne, et c'est lui qui veut vous parler. Au travers de ses serviteurs, au travers d'un enfant, au travers d'une situation, il peut même vous parler audiblement. Il peut vous envoyer un ange. L'homme véritable, il laisse l'esprit donner la direction et le rythme à sa vie. C'est en cela que avoir l'esprit tourné vers la chair, c'est la mort, et avoir l'esprit tourné vers le spirituel, c'est la vie éternelle. C'est ça que Paul est en train de nous expliquer, et c'est ça que Alma est en train de nous expliquer. Vous voyez? Alors regardons à Jésus, puisqu'il est notre modèle parfait, notre sauveur, modèle parfait de virilité, de courage. Il se tenait debout devant ses tortionnaires, flagellé, battu, couvert de crachats. Ils avaient posé aussi une couronne sur sa tête, aussi une couronne d'épines. Et Pilate a dû admettre, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Et puis il a prononcé la vérité. Juste quelques instants avant, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Et là, il l'a dit, la vérité. Pilate a dit en montrant Jésus, voici l'homme. Ça, c'est la vérité. Jean 19, 4, 5. Jésus était le plus grand de tous les hommes, car il a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tout le monde. Luc 2, 52. Il a grandi et nous grandissons. Je suis content d'être vieux. J'ai encore à grandir. Jésus a soumis sa chair à l'esprit. Ne venez pas me dire que Jésus n'avait pas besoin de soumettre sa chair à l'esprit. Il avait besoin de soumettre sa chair à l'esprit parce qu'il avait une chair semblable au péché, comme la nôtre, pareil, comme la nôtre. Il était tenté comme nous, nous dit la Bible. Et il a soumis sa chair à l'esprit. Vous y arrivez toujours? Moi, je n'arrive pas toujours. Mais je m'efforce. Des fois, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Mais parce que je suis sauvé par cet admirable sauveur, je fais tous mes efforts pour pouvoir ajouter à ma foi la vertu et toutes ces choses. Et vous, c'est ça la vie chrétienne. Il a appris Jésus l'obéissance par les choses qu'il a subies. Hébreux 5, 8. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a appris à obéir par les choses qu'il a subies. Ça veut dire que ce qu'il a subi lui a appris à obéir. Il faut réfléchir un petit peu, c'est pas simplement une phrase. C'est très pratique. Alors voilà, lui, le seul être humain parfait, exempt de péché, il a vécu sur la même terre que nous, avec les mêmes problèmes. Là, j'ai froid aux pieds. J'ai chaud au haut, j'ai froid aux pieds. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Lui, je sais pas, il avait peut-être aussi tout le temps froid aux pieds, ou un truc comme ça. On a tous des trucs bizarres. Et il est le seul qui puisse nous dire, quelle espèce d'homme devez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis moi-même. Vous trouvez ça dans 3 Néphis 27-27 et dans 1 Jean 4-17. 1 Jean 4-17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est bien, mais moi j'ai vécu pendant, je ne sais pas, plus de 40 ans de vie chrétienne sans avoir vu ce verset-là. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas compris. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une conférence, Osborne prêche dessus. Oh, c'était un choc. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est une toute petite phrase. Et dans le livre de Mormon, il appuie là-dessus disant, c'est Jésus qui parle en disant, quelle espèce d'homme devez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis moi-même, voilà ce que vous devez être. N'est-ce pas magnifique? Quel beau témoignage! On va lire un autre texte dans la Bible, dans 1 Roi 2:2-3. 1 Roi 2:2-3. Déjà hier, j'ai eu de la peine à trouver où ça commence. Voilà. David, qui approchait du moment de sa mort, il a donné ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Alors, j'entends déjà certains chrétiens qui vont dire « Non, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la grâce. » Ouais, mais c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut désobéir aux 10 commandements. Non, monsieur. La loi de Moïse, il faut comprendre, il y a une loi morale et une loi sacrificielle. Si tu n'obéis pas à la loi morale, c'est que tu ne crois pas dans le sacrifice parfait de Jésus. Les Juifs, eux, ils avaient une loi morale et une loi sacrificielle. C'est-à-dire que quand ils péchaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, quand ils péchaient, heureusement, ils pouvaient aller au temple faire un sacrifice et ils étaient purifiés. C'était la loi de Moïse. Maintenant, c'est différent. Nous avons toujours la loi morale, mais nous avons déjà été pardonnés par le sacrifice parfait de Jésus. Mais maintenant, la loi morale n'est pas passée. Tu ne commettras pas l'adultère, c'est toujours bon. Tu ne tueras pas, c'est toujours bon. Il y a des fois, je regrette. Si ce n'était pas interdit de tuer, il y en a quelques-uns, je zigouillerais, moi. C'est pas gentil ce que je dis là. Mais qui c'est qui a jamais eu cette idée? Mais voilà, il y a la police, et puis il y a la loi, et puis il y a tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas bien de tuer, c'est achtu, pas glop, faut pas. C'est une loi. Eh bien, il faut se soumettre à cette loi. Et il faut se soumettre aussi à « faut pas mentir, faut pas voler, etc. 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 » Sinon, ben, tu seras pas un homme. C'est ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que tu seras perdu. Il y a eu un sacrifice parfait qui était fait. Mais tu seras pas un homme. Ah, Michel Janton, quel casse-pied. C'est ce que le Seigneur a à dire aujourd'hui. Soyez des hommes de Dieu. Amen. Jésus, merci de bénir ces quelques paroles que j'ai pu dire et oint-les par ton esprit afin qu'ils fassent leur chemin dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Merci, mon Dieu. Amen.